Fréquence banane. Les infos.
Actualité internationale. L'Europe s'alarme des tractations américano-russes sur l'Ukraine. En effet, la visite de l'émissaire américain Steve Witkoff à Moscou, ce mardi 2 décembre n'a pas évolué la situation et l'Europe contemple ces discussions américano-russes sans y être invitée. Pourtant, la députée ukrainienne Lyudmila Buymister insiste sur l'importance de l'UE dans les réflexions menées. Sport national. Du côté du hockey sur glace, la soirée du 3 décembre a été infructueuse pour les équipes romandes. En effet, Genève, Fribourg et Bienne ont été battues à plate couture. Du côté du football, Yverdon déclenche la surprise par leur victoire contre Lausanne 2-1 après prolongation sur la pelouse du stade municipal à domicile, ce qui lui permet d'accéder au quart de finale de cette Coupe Suisse. Initiative et votation. Ce dimanche, les Vaudoises et Vaudois ont massivement refusé les deux initiatives populaires proposées à l'échelle fédérale, l'une concernant l'obligation du service citoyen aux jeunes femmes, l'autre concernant la création d'un impôt sur les successions et donations pour financer des mesures climatiques. À Genève, l'UDC souhaite lancer une initiative pour interdire aux étrangères et étrangers de voter au niveau communal, ce qui est pour le moment légal après 8 ans de vie sur le territoire suisse. Retour sur le sport avec Noé Ponty, nageur tessinois qui démarre très bien sa chasse aux médailles lors de ses championnats d'Europe en petit bassin en Pologne, avec une médaille d'or aux 50 mètres papillon hier. Et il ne s'arrêtera pas là puisqu'il sera aux lignes de départ du 100 mètres 4 nages aujourd'hui, du 100 mètres papillon demain et du 200 mètres papillon dimanche. Enfin, un fait divers, un trentenaire a grièvement été blessé dans l'incendie d'une maison ce mercredi après-midi à Gain, dans le canton de Fribourg.
Fréquence banane, la météo.
La journée sera globalement nuageuse à Lausanne avec un ciel chargé mais sans grands éclaircissements. Les températures resteront froides autour de 3 à 5 degrés Celsius en matinée et elles ne monteront pas beaucoup l'après-midi. On peut s'attendre à un temps doux mais humide, quelques averses sont possibles surtout en début de journée et le ciel restera très couvert. Pensez à sourire et à quand même sortir pour ne pas devenir des zombies.
Merci Myriam pour la météo. Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Est-ce que vous allez bien aujourd'hui? Il est 7h du mat.
7h du matin, écoute, on est là, on est réveillé, et toi?
Moi, je vais très bien. Et toi, Gabriel, ça va?
Le réveil était matinal, mais ça va.
On a Fabio sur la technique aujourd'hui, et bonjour. C'était Myriam qui vient de faire le flash info et la météo. Elle vient de nous parler un peu du climat qui est... Et du coup, on vous laisse avec une chanson de Elton John, Your Song. Et ensuite, on va entamer le journal.
Il est 7h12 sur Café Kawa et on commence avec le journal. Au sujet des actualités internationales, l'émissaire américain Steve Witkoff est venu en visite à Moscou ce mardi 2 décembre pour pouvoir parler de la question ukrainienne. Donald Trump, président américain, semble en effet vouloir parvenir à la paix par n'importe quel moyen. Pourtant, rien ne semble aboutir à un compromis. Je cite, « Aucune solution de compromis n'a encore été choisie, mais certaines propositions américaines peuvent être discutées », estime quand même Yuri Ushakov, le conseiller du président russe. De son côté, la députée au Parlement ukrainien salue le soutien européen, pourtant pas invité dans les discussions américano-russes. Selon elle, le seul moyen de forcer la Russie à la paix est de montrer, je cite, « une unité avec l'Europe et notre force commune sur le champ de bataille ». Ce qui est à retenir, comme le rappelle tout de même le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, reste que la situation est urgente et que l'Ukraine a plus que jamais besoin de notre soutien. Du côté du sport, cette soirée du mercredi 2 décembre est à oublier en Suisse romande, du côté du hockey. En effet, Genève perd 6-2 face à Davos, un résultat qui ne surprend pas lorsque l'équipe vainqueur possède notamment le meilleur buteur du championnat, Matej Stranski. Par ailleurs, Fribourg s'incline 4-2 face à Rapid, stoppant la strike de l'équipe fribourgeoise qui rêvait d'un troisième succès consécutif. Néanmoins, la chance ne leur a pas souri puisqu'ils sont menés 2-0 dès la 40e minute et s'ils revivent à la 43e minute, ce n'est qu'éphémère. Bienne perd aussi 6-2 face à Berne, sans surprise, mais un match moins important du fait des positions assez peu élevées dans les classements de ces deux équipes. Du côté du football, Yverdon déclenche la surprise par leur victoire contre Lausanne 2-1. Sur la pelouse du stade municipal de la ville d'Yverdon, les hommes à domicile égalisent en deuxième période, 71 minutes, et marquent le début de la victoire lors de la prolongation à la 115e minute. Cette victoire, à laquelle personne ne s'attendait, propulse Yverdon au quart de finale de cette Coupe Suisse. Aux urnes, une votation fédérale de deux initiatives populaires ont été massivement refusées ce dimanche, notamment dans le canton de Vaud. La première initiative, qui s'intitule « Pour une Suisse qui s'engage, initiative service citoyen », voulait obliger le service citoyen également aux jeunes femmes suisses de 18 à 25 ans, et ce, dès 2030, et a largement été impopulaire, avec un non voté à 87% chez les votantes et les votants. L'autre initiative intitulée « Pour une politique climatique sociale financée de manière juste fiscalement, initiative pour l'avenir » concernait la création d'un impôt à 50% sur les successions et donations sur les ultra-riches, dépassant 50 millions de francs pour financer des mesures climatiques. Cette votation a exprimé le non à 70,6%. Ce qui reste important et inquiétant à souligner reste le faible taux de participation qui est à 41,3% et qui semble montrer un désintérêt des Suissesses et Suisses pour l'avenir. Toujours dans les initiatives à Genève, l'UDC souhaite lancer une initiative pour interdire aux étrangers et étrangères de voter au niveau communal, ce qui est pour le moment légal après 8 ans de vie sur le territoire suisse. Cette initiative est lancée après le refus d'un projet de loi assez similaire apporté par le député UDC Yves Niedegger au Grand Conseil en novembre. L'UDC Genève a pour argument que le droit de vote doit être consécutif à la naturalisation pour que les votantes et votants soient assez formés au système politique suisse et à l'utilisation correcte d'un bulletin afin de ne pas être, et là je cite, « sensible aux pressions communautariste ». Retour sur le sport avec cette fois-ci de la natation. Noé Ponty, nageur tessinois de 24 ans, démarre très bien sa chasse aux médailles lors de ses championnats d'Europe en Pologne en petit bassin avec une médaille d'or aux 50 mètres papillon hier avec son meilleur record du monde personnel qui est de 21 secondes et 54 centièmes. Une double victoire puisque c'est une finale qu'il avait perdue lors des championnats du monde en grand bassin à Singapour cet été. Il compte désormais 4 médailles d'or, 2 médailles d'argent et une de bronze au championnat d'Europe en petit bassin. Et il ne s'arrêtera pas là puisqu'il sera aux lignes de départ du 100 mètres 4 nage aujourd'hui, du 100 mètres papillon demain et du 200 mètres papillon dimanche. Enfin, un fait divers, un trentenaire a grièvement été blessé dans l'incendie d'une maison ce mercredi après-midi à Guin, dans le canton de Fribourg. Un incendie s'est en effet déclaré mercredi vers 15h35 sur la commune de Guin. Au moment des faits, deux personnes se trouvaient à l'intérieur et ont pu sortir à temps, une femme de 74 ans qui a été examinée sur place par les ambulanciers et un homme de 32 ans grièvement blessé qui a été transporté à l'hôpital. Les dégâts au bâtiment sont importants selon les pompiers du bataillon Saint-Gin et de la police cantonale. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'incendie.
Myriam, tu peux nous parler un peu de la pièce qu'on vient d'entendre ?
Ouais, c'est le titre c'est Capitaine et c'est de O'Smile, une rappeuse, je crois, que j'ai découvert sur Insta. Voilà.
Incroyable. Et là, je vais vous parler un peu de l'Info Campus. Pour le PFL, en collaboration avec l'UNIL, le CHUV et Unisanté, le PFL a organisé ce week-end passé, Horizon Santé 2025, un grand rendez-vous public pour débattre des défis et innovations en santé. Du côté vie étudiante, le campus rentre dans sa traditionnelle ambiance de fin d'année avec le retour des chalets de l'Avent, à côté de l'Épicure, cette fois à cause des travaux sur l'esplanade, organisés par l'association des étudiants. C'est un espace convivial, parfois festif, pour se retrouver entre midi et début soirée, et je dirais même tard dans la journée, dès ce début de décembre. Et je vous conseille vivement, j'y étais hier, j'ai pris d'autres choses et c'était très très bon. Quant à l'UNIL, depuis quelques jours, le campus a vécu une occupation. En effet, une trentaine à soixantaine d'étudiants ont occupé le bâtiment Anthropole pendant 3 nuits. L'occupation a pris fin ce vendredi matin, après que les occupants eurent accepté de lever le camp. Cette mobilisation s'inscrit dans un mouvement plus large contre des coupes budgétaires annoncées par le gouvernement vaudois, qui menacent le financement de l'université, la recherche, et pourraient entraîner une augmentation des taxes d'études, ainsi que des suppressions de postes à tous les niveaux. Plus de 3600 signatures ont été recueillies via une pétition signée par des étudiants, du personnel intermédiaire et des membres de l'administration pour demander à ce que ces coupes ne soient pas appliquées. Même si l'occupation a cessé, la mobilisation reste vive, les participants prévoient d'autres actions et le campus reste attentif à l'évolution des décisions. Il s'agit aussi de la journée des gymnasiens à l'UNIL où des élèves seront accueillis sur le campus avec le but de les encourager à rejoindre l'établissement. Et enfin, du côté divertissement, à ne pas rater le drag show à la Z-League à 19h aujourd'hui. Et je vous laisse avec Runnin' de Sex of Spades. Cause I know you in a way, running to you. Fréquence Banane, la revue de presse.
Rebonjour. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'un sujet assez omniprésent dans les médias de nos jours, l'intelligence artificielle et comment on la vit en Suisse. Entre enthousiasme, inquiétude et ambition internationale, les réactions sont très contrastées. Commençons par une étude assez populaire en ce moment, le World Internet Project Switzerland 2025, mené par l'Université de Zurich, a recensé des chiffres assez intéressants. 73% de la population suisse a déjà utilisé l'IA générative, donc dans sa globalité, alors qu'il y a 2 ans, c'était seulement 37%. Chez les jeunes de 14 à 19%, ce chiffre atteint 84%. Le Temps analyse ce boom de manière assez factuelle. L'IA est devenue un outil banal, mais pas encore rassurant. Ce manque de rassurance s'élève à peu près 60% des personnes interrogées qui craignent une surveillance accrue de la part des services IA. Un tiers redoute la perte d'emploi, un autre tiers imagine même qu'on pourrait perdre le contrôle des IA. C'est assez rare, mais un rapport montre à la fois un usage massif et inquiétude en monte de nos jours. Face à ces chiffres, les médias regardent du côté de la politique. La RTS revient sur la décision du Conseil fédéral. Pas de grande loi générale sur l'IA comme dans l'Union européenne. La Suisse préfère une régulation sur mesure, secteur par secteur et loi par loi. L'objectif du gouvernement, encourager l'innovation tout en protégeant les droits fondamentaux des utilisateurs. Transparence, protection des données, garantie contre la discrimination. Selon la RTS, l'idée serait d'avancer vite mais prudemment. Plusieurs éditorialistes, surtout en Suisse alémanique, saluent cette flexibilité pour les entreprises. D'autres regrettent l'absence d'un cadre plus global, mais c'est le choix qui a été fait. En parallèle, la Suisse regarde au-delà des frontières. Le Temps Hébélique relaie la même annonce du département fédéral des affaires étrangères. Genève accueillera un sommet mondial sur l'intelligence artificielle en 2027. Un geste politique fort. L'objectif étant clair, positionner la Suisse comme acteur central dans la gouvernance internationale de l'IA. Un peu comme elle le fait déjà pour la cybersécurité ou le droit humanitaire. Les médias y voient une ambition assumée, être un petit pays mais un grand hub de régulation. Pour ce qui est des applications concrètes, plusieurs journaux, dont la Tribune de Genève, analysent un rapport officiel publié en septembre. Il examine les opportunités et les risques de l'IA dans le secteur énergétique. Optimiser les réseaux électriques, anticiper la demande, tout cela est possible. Mais une dépendance accrue à des systèmes opaques pose des questions de sécurité et de responsabilité. Ce traitement pragmatique, presque technique, contraste avec les discussions plus diplomatiques ou sociétales vues ailleurs dans le pays. Alors que retenir de tout ça? C'est que l'IA n'est plus un sujet futuriste, c'est un sujet d'actualité, que ce soit dans la société, dans l'économie et dans la politique extérieure et infrastructurelle. On oscille entre les deux positions, enthousiasme pour tout ce qui est innovation technique et peur d'une boîte noire qu'on ne pourrait pas contrôler. L'IA promet beaucoup, mais elle nous oblige surtout à trouver un équilibre délicat entre innovation et confiance publique. Je vous laisse avec une musique de Noël pour faire plaisir à Myriam. Geschlat et... Santa Claus is coming to town. Voilà.
Mmh. Mais qu'est-ce qui se passe en ville ?
L'agenda !
L'agenda !
L'agenda !
L'agenda !
En ce qui concerne l'agenda, cette semaine sera pas mal chargée en concerts. Pour ce soir, vous aurez le choix d'aller au Quartz, où joueront Watalef Said et Mayak, deux groupes de post-rock aux influences prog. D'ailleurs, petite mention spéciale au batteur de Watalef Said qui est absolument excellent. Ça se passera à Lausanne, à la rue de la Grotte, dès 20h30, et l'entrée est au chapeau, ce qui fait toujours plaisir qu'on est étudiant. Si vous préférez les synthés au son des guitares, vous pouvez passer au Docks à 20h pour une soirée synthwave dark synthwave, tout aussi cathartique en compagnie de Perturbator, Kaelan Mikla et Ghost, pour leur unique date en Suisse. Demain, ce sera Ikan You, un duo suisse composé de deux artistes féminines qui proposent une sorte de rock futuriste autoproclamé electropunk. Avec elle jouera aussi Faust, ex-chanteuse de Baron, qui vous entraînera dans son petit monde d'une brutale sincérité. Entre amour et amertume, entre sensualité et fragilité, sa poésie mélange le beau et le brut d'une voix revendicatrice assumée. Le concert se déroulera dans la salle de l'Amalgame à Yverdon dès 20h. Au Rocking Chair de Vevey ce samedi, on vous conseille d'enfiler votre meilleur baggy et vos lunettes les plus futuristes pour un retour aux années 2000. Trois DJ, Big Gina, Sabrina Oberlin et Drift se tiendront derrière les platines pour que vous puissiez profiter d'une sélection Y2K aux petits oignons sur le dance floor des 23h jusqu'au bout de la nuit. Sur ce, je vous laisse avec l'échappée des discrets.
Trop bien, ça vient. Il est 7h37 sur le plateau du Café Kawa. Et ça vient le moment où il faut combler le vide. Aujourd'hui... on va faire petite story time, comme ça je brode en même temps. Hier j'ai écouté un bout de la réunion comité de Fréquence Banane, et on parlait notamment du Prestival, donc je ne sais pas ce qu'est le Prestival, si quelqu'un le sait, c'est sympa d'expliquer, parce que moi je ne sais pas, j'ai pas checké. Et donc en l'occurrence, ce qui se parlait, c'est que l'auditoire et Fréquence Banane pouvaient partager leur stand à deux. Et du coup c'est là que ça a pop-up dans ma tête qu'on allait parler de ça. On a deux médias sur le campus qui sont faits par des étudiants, pour les étudiants. Donc en fait, on a deux associations de médias sur le campus, c'est l'Auditoire et Fréquence Banane. L'Auditoire, c'est un journal qui est écrit, et donc en gros, ce qui se passe, c'est qu'à chaque début de mois, juste avant une édition, donc quelques semaines avant une édition, ils vont faire un appel à articles, et en gros, ils font une soirée de lancement, où genre juste, ils disent « Ok, il faut parler de tel thème, qui veut parler de quoi ?» Du coup, ils écrivent leur article, puis leur journal est en libre service sur tout le campus. Fréquence Banane, du coup, par les moyens notamment des Cafés Kawa, va à l'aide de la radio transmettre les informations, etc. Donc, c'est deux formats qui sont très différents, mais qui ont pour but la même chose. Et c'est en fait un peu la définition d'un média. Un média. Attendez 30 secondes, je vais taper sur internet ce que c'est un média, comme ça j'ai de la matière à dire. Mais un média, c'est un moyen technique et support de diffusion massive de l'information. Ça peut être la presse, la radio, la télévision, le cinéma. On a aussi une super exposition à Anthropole en ce moment, qui s'appelle Histoire sous tension, la télévision suisse. Parce qu'il y a eu notamment, en fait c'est une exposition qui va retracer l'histoire de la télévision en Suisse, et notamment le moment où on avait peur que ça vole la place de la radio, puisqu'à l'époque on écoutait les infos surtout par la radio. Et du coup tout ça pour vous demander, vous, comment, par quel moyen vous renseignez sur les actualités, les informations, tout ça.
Qui se lance? Moi perso, je pense que c'est vraiment la télé. Je regarde des passages et des clips, et la radio quand je suis dans une voiture par exemple, mais sinon malheureusement j'arrive pas à lire des articles assez souvent. Et toi Myriam?
Alors moi ça a varié en grandissant, parce que quand j'étais enfant, pareil, la télé, donc moi je suis française, donc mes parents allumaient le 20h sur France 2 ou sur TF1, et puis on regardait le 20h, et puis c'est là que j'avais les informations. Ou alors pareil à la radio quand on prenait la voiture. Aujourd'hui dans ma vie de tous les jours, ça m'arrive assez souvent juste d'ouvrir une application et puis de lire des articles à sujet, mais j'avoue que je le fais de moins en moins souvent parce que c'est un peu anxiogène. de toujours checker les actualités, parce que les actualités sont rarement fun. Sur Insta aussi, des fois, il y a les réels qui expliquent ce qui se passe, qui est un bon moyen de se tenir au courant. Et puis les cafés Kawa aussi.
C'est vrai que les réseaux sociaux ont vraiment impacté comment on reçoit nos,
oui,
nos news.
Oui, c'est ça. Et puis c'est pas forcément une bonne chose, je trouve.
Mais oui, bon. Pareil.
Ça va, Gabriel, voulait participer à la discussion.
Ben, je peux. Enfin. À chaque quand j'étais plus petit, c'était principalement la, les journaux. J'essayais à chaque fois de les choper quand ils étaient en libre service en public. Avec le temps, j'ai de moins en moins fait ça. Mais en ce moment, ouais, c'est surtout la consommation passive avec la télévision. Mais souvent, si c'est vraiment un sujet que j'ai envie de connaître plus en profondeur, je dois m'extirper de la télévision, aller sur Internet, parce que la télé, c'est vraiment très en surface, c'est très orienté aussi. Donc, je préfère trouver plus loin mes trucs. Gabriel, toi, c'est quoi ?
Moi, c'est surtout de nos jours, tout ce qui est news tech, je vais surtout aller sur YouTube. J'ai certaines chaînes qui me font des bons résumés chaque 3 jours. Après, un peu pareil, je vais sur Instagram et si quelque chose m'intéresse, je vais le voir sur un site en particulier. Mais voilà, c'est à peu près banal, très Gen Z.
Et vous en pensez quoi, vous, de prendre nos informations sur Instagram ?
Je pense que c'est vrai que ça donne un plus grand accès à tout le monde à certaines news. Mais comme tu l'as dit, ça reste genre assez néfaste, je trouve, d'être bombardé avec des informations.
C'est un peu ça, c'est que genre c'est des réels qui sont très courts, qui sont, enfin l'objectif c'est de te garder, enfin l'objectif c'est d'avoir de l'audience aussi, donc forcément on va retenir que pas forcément ce qui est juste, mais ce qui attire. Ouais. Et du coup c'est, et puis il y a aussi toute la notion d'algorithme derrière qui fait que bah en fait t'as des news que d'un point de vue. Genre moi, je sais que, par exemple, je suis très investie dans la cause environnementale, mais ce qui fait que quand j'ai les news sur mon flux Instagram, bah, je vais avoir beaucoup de choses qui touchent à l'environnement, etc. Ouais. Et c'est une bonne chose, mais en même temps, je me dis, bah, j'ai pas envie d'être...
Dans une echo chamber.
Ouais, voilà, c'est un peu ça. Genre d'être dans un cercle où il y a que des gens qui pensent comme moi, et du coup que des informations qui vont dans mon sens parce que bah un, ça aide pas à la tolérance et c'est un gros problème qu'on a aujourd'hui. Ouais. Et puis plein de choses comme ça. Donc
je trouve aussi que pas tout est très fiable sur internet. Et
ouais,
du coup,
faut double checker quoi. Mais après c'est ce truc de il faut fournir un effort supplémentaire qui est de double checker l'information.
C'est ça.
Bah, j'ai envie de dire ça devrait être un réflexe pour à peu près toute information et toute source.
Oui.
Enfin, tout média.
Mais malheureusement, ça ne l'est pas.
On essaye. Moi, je me souviens que quand j'étais. Je sais pas comment vous appelez ça en Suisse. Bref, quand j'avais 11 ans, on avait fait toute une séquence en français sur justement le journalisme, l'importance de checker ses sources, etc. Et en fait, on essaye d'éduquer aux jeunes de le faire, mais Instagram, TikTok, les médias, juste aujourd'hui, c'est du contenu rapide qu'on veut. Plus personne veut prendre le temps de double checker.
Ouais, c'est ça. Gabriel, t'en penses quoi?
J'essaie de réfléchir à des cas concrets justement où il y a eu ce cas où... En fait, je pense beaucoup aux parents qui de nos jours aiment bien m'envoyer, par exemple, je sais que mon père adore m'envoyer des vidéos par IA.
Moi,
donc,
ma
il
maman...
dit, waouh, c'est incroyable, t'as vu ce chien ce qu'il peut faire? Oui, j'ai vu ce que ce chien peut faire, mais c'est pas un vrai chien malheureusement.
Moi, ma maman passe sa vie à m'envoyer des réels Instagram. Et du coup, ça me fait extrêmement rire parce que du coup, Instagram, c'est notre génération à nous, mais elle l'utilise. Ouais. Et il y a aussi ce truc de nous, en tant que génération qui a grandi avec Instagram, on a quand même été éduqués un chouïa avec la notion d'algorithme, à la notion de genre ne le prenez pas au sérieux. Bon. Ça marche ou ça marche pas, mais en tout cas on nous l'a dit, alors que la génération d'avant juste consomme le truc et ne pense pas du tout à ça, et du coup ça me fait très rire quand j'explique la notion d'algorithme à ma mère et qu'elle y croit pas.
C'est vrai qu'on arrive à détecter certains aspects des news sur internet beaucoup mieux que nos parents.
Bon, on continue à le faire et on continue à consommer Instagram alors qu'on sait tous que c'est pas bien, mais on a quand même cette notion de avoir au moins une petite idée de comment ça marche derrière, alors que j'ai l'impression que la génération d'avant pas du tout, et notamment sur l'IA.
Après, c'est aussi savoir qu'est-ce que t'entends par la génération d'avant. Parce
la
que tu passes de Gen Z à boomer ou t'inclus millennials entre temps.
Je sais pas. Bah, les gens qui ont pas grandi avec Insta. Enfin, on a grandi. Ouais, je sais pas.
Je veux dire, les millennials ont cet aspect, je pense, plus. Je comprends ce qu'il y a derrière la machine quand elle me donne 5 vidéos que j'aime bien d'affilée, quoi.
Oui, ok, faire.
Mais bon, moi, je parle de la génération de mes parents, du coup.
Il s'est rien passé entre les années 80 et 2000. C'est un énorme vide pour toi.
Ouais. C'est ça. Il y a la génération de mes parents, et après, il y a notre génération. Il y a un trou vide.
Je trouve aussi qu'il y a un gros problème de censure sur les réseaux. Genre, il y a certains trucs qu'on ne va pas recevoir. Revient au problème des algorithmes, en fait. Mais ça nous prive parfois de certains aspects des médias, je trouve.
En fait, c'est juste que je pense que les réseaux sociaux, c'est à nuancer. J'avais une prof de philo qui disait que c'est un pharmacon. Du coup, l'expression pharmacon, si vous voyez ce que ça veut dire.
Non,
c'est pas un pharmacon, c'est quelque chose qui est à la fois bien et pas bien. Et en fait, ce qui détermine ce qui est bien ou pas bien, c'est pas l'objet en tant que tel, c'est l'utilisation qu'on fait de l'objet. Par exemple, un réseau social, techniquement, quand tu vois le réseau, il est ni bien ni pas bien. C'est juste l'utilisation que t'en fais qui fait que c'est bien ou que c'est pas bien. Du coup, ça peut être bien parce que ça peut être un moyen de se renseigner, ça peut être un moyen d'accéder plus facilement à l'information. Mais en même temps, c'est pas bien si tu consommes juste le truc sans esprit critique, sans réflexion derrière, etc. Et donc, c'est tout l'enjeu des réseaux sociaux, je trouve, de genre, justement, on a accès plus rapidement à l'information, plus facilement aussi, parce qu'avant, il fallait acheter le journal, il fallait avoir la radio à la maison, il fallait avoir une télé à la maison. Donc, c'était beaucoup plus compliqué. Et aujourd'hui, donc, on a vraiment l'information qui est à bout de doigt, littéralement parlant. Mais il faut faire cet effort de ne pas s'enfermer du coup dans ce qu'on pense et juste écouter des trucs qui vont dans notre sens, penser à double-checker les informations parce que du coup il y a des fois où c'est obvious, c'est en mode what the fuck, genre ça se voit que c'est pas vrai, mais il y a des trucs où c'est moins obvious et en fait tu t'en rends pas compte.
C'est vrai.
D'ailleurs, j'ai une question à vous poser sur ce sujet. Est-ce que vous avez déjà utilisé l'IA pour justement faire une agrégation de sources et vérifier quelque chose?
Non, perso non.
Ça va?
Alors, étant donné que l'IA me dégoûte, j'essaie de l'éviter le plus possible, donc non.
Fair enough.
Mm-hmm. Toi, tu l'as fait?
Oui.
Mais en fait, le truc, c'est que genre, il y a pas longtemps, j'ai appris ça et j'étais genre vraiment surprise. Mais genre, ChatGPT, enfin, fut un temps, ChatGPT créait des sources.
Oui.
Ouais.
Il le fait toujours. Hein.
Il le fait toujours, mais là, il y a au moins des fonctions qui te permettent d'avoir des.
Mais du coup, l'IA te dégoûte.
Ouais.
Donc tu penses que c'est forcément un truc mauvais?
I will die on that hill.
Ok. Et tu veux dire des choses pour argumenter ton point?
On passe vraiment à l'intelligence artificielle comme sujet là?
Et sachant que j'ai fait une revue de presse il y a 20 minutes sur ça.
Alors, moi je trouve que c'est très dans le thème. Oh,
je suis pas content parce que ça vole le travail de tous les artistes et le travail de tout ce qui a été fait sur internet depuis le début. Enfin, ça vole tout ce qui a été donné, tout ce qui a été pris sans l'accord de qui que ce soit et sans quoi que ce soit, ça détruit des métiers. Déjà tout ce qui est artistique, tout ce qui est aussi lié aux médias justement, comme ce que nous on est en train de faire. Bon, je pense pas encore complètement pour la radio, mais je pense notamment à tout ce qui est des journaux, des sites web, des choses. Par exemple, quand tu étais sur Google et que tu faisais une recherche pour régler un problème sur ton ordinateur ou dans ta vie, t'avais souvent un forum sur lequel t'apparaissais avec des gens qui avaient eu ce problème et qui en discutent. Maintenant, tu fais la même recherche sur Google, t'as un résultat fait par IA qui te dit une sorte de marche à suivre, pas claire, avec des emojis tous les trois paragraphes, qui ne t'aident pas dans ton problème. Je trouve que ça a détruit Internet à un niveau, mais dont on ne se rend pas encore compte complètement aujourd'hui.
Ok, c'est vrai. Je fais un petit retour aux médias et je pense que genre il faut applaudir la résilience des autres types de médias avec les réseaux sociaux et l'IA. Genre c'est vrai qu'on les utilise pas assez souvent, les journaux et la télé, sachant qu'on a des réseaux sociaux maintenant, mais ils sont toujours debout, je trouve.
Ils sont debout et puis ils arrivent à s'adapter. Par exemple, moi je le vois notamment sur la question de la radio, tu peux voir genre par exemple des réels qui sont faits, donc c'est genre comme nous, de gens qui genre sont à l'antenne, et ça permet de faire de la pub à la radio en utilisant notre moyen de communication, mais je suis assez d'accord.
Oui.
Mais
genre ils arrivent, les autres types de médias arrivent à s'adapter à ce nouveau type de média, je trouve assez bien.
Après moi ce qui je retourne à ce que tu disais, mais moi ce qui me comment tu définis intelligence artificielle alors
dans l'absolu, ce que c'est un algorithme qui te donne, enfin à la base des bases, l'intelligence artificielle telle qu'est ChatGPT, ça a été conçu de sorte à ce qu'il puisse donner la réponse la plus probable pour remplir une phrase. Donc à la base, ça a été construit de t'as une phrase, tu retires un mot, et ensuite l'IA a pour rôle de compléter le mot qui manque.
Oui, mais du coup,
avec le truc le plus probable. Et maintenant, ça a juste été étendu, ça s'est amélioré pour que du coup, ce soit plus juste compléter un mot qui manque dans une phrase, mais que ça puisse répondre, donner la réponse la plus probable à la question que tu lui as posée.
Mais du coup, ton correcteur orthographique, c'est de l'IA ?
Le correcteur orthographique, il me semble que c'est basé sur un autre algorithme qui est sur les règles du coup, de grammaire, etc.
Oui, mais c'est vrai que j'ai fait ça en sachet il y a un mois. Mm-hmm. C'est vraiment genre le tout début de l'IA. C'est vraiment genre, tu lui passes une phrase, je sais pas, la tour Eiffel est A, et ensuite c'est à lui de compléter. Et c'est pas toujours, genre, c'était pas toujours vrai au début. Genre, fallait vraiment l'entraîner. Mais au final, avec après, assez d'entraînement, ça on est arrivé à l'IA d'aujourd'hui.
Mais pourquoi est-ce qu'on a aussi... Enfin, pourquoi est-ce qu'on a autant de sentiments si forts envers cet algorithme en particulier, alors que bah, depuis la création d'Internet, depuis la création de l'ordinateur, on a des millions d'algorithmes qu'on utilise tous les jours. Genre, en fait, c'est juste que j'essaie de mettre la chose dans son contexte. Je dis pas que je suis pour ou contre l'IA. Là, j'essaie juste de mettre la chose dans son contexte, mais je suis juste en mode, bah, la réaction qu'on a aujourd'hui face à l'IA, c'est exactement la même réaction qu'on a eue quand la calculatrice est apparue. Et aujourd'hui, ça ne nous dérange plus d'utiliser des calculatrices. Du coup, je me dis, si on remet juste le débat dans son contexte, probablement qu'on est... Aujourd'hui, ça suscite des sentiments très forts parce que c'est nouveau, mais qu'au final, that's not a big deal. Je sais pas. C'est pas mon avis. J'essaie juste de comprendre.
Alors, that's not a big deal. Enfin, tu as des études, tu as des scientifiques qui sont en train de s'alarmer en ce moment même sur du coup le futur de tout ce qui est connaissances, etc. à ce sujet-là. Mais si on est plus en termes conceptuels que juste la société, enfin du stade des études qui ont été faites, je trouve ce qui change fondamentalement entre l'intelligence artificielle et les autres outils qu'on a développés avant, c'est que les autres outils, c'était des outils. C'était pour que toi, en tant que personne, tu puisses t'aider de cette chose-là pour faire autre chose. Si tu as, par exemple, tu passes du crayon au stylo et qu'ensuite, bah, tu passes de la gomme à l'effaceur ou quelque chose, c'est quelque chose qui rend plus facile, qui t'aide à faire un travail. Mais au final, c'est quand même toi qui fais ce travail. Si t'as une marche à suivre pour construire une chaise, tu t'es quand même aidé de la marche à suivre, mais tu as fait toi-même le travail de faire la chaise. Par contre, l'intelligence artificielle, maintenant, ce que tu fais, c'est que tu vas demander à quelqu'un d'autre de faire le travail à ta place. Quand tu vas rédiger un mail, tu vas plus utiliser un correcteur orthographique pour corriger ce que t'as écrit, mais tu vas demander « Écris ce mail à ma place ».
Et est-ce qu'on pourrait pas dire que l'IA c'est un pharmacon et ça dépend juste de l'utilisation que t'en fais ? Parce qu'en soi, tu peux aussi être éduqué à comment utiliser l'IA et l'utiliser l'utiliser pour t'aider et pas pour faire les choses à ta place.
J'allais dire exactement la même chose. C'est encore une fois la même histoire que une fois que tu as un marteau, tout devient des clous. Tu peux mettre de l'IA partout, mais après c'est à toi de savoir où l'utiliser et comment l'utiliser pour être efficace.
Pour la notion de pharmacon, faudrait qu'il y ait une neutralité dans la chose, sauf qu'on sait aussi qu'aujourd'hui que les réponses sont orientées, que tu peux l'entraîner pour donner certains types de réponses. Il y a eu une des histoires de rachat de parts de la part d'Israël pour donner des réponses prédéfinies ou je sais pas quoi. Donc c'est au final un peu le même problème aussi que les réseaux genre Instagram, etc. C'est j'ai du mal à le considérer comme un pharmacon parce que même la plateforme en elle-même, l'outil en lui-même est orienté. Et les gens qui sont derrière cette chose-là ne le font pas dans le bien de l'humanité.
Mais après, là, par exemple, tu cites un truc commercial, sans doute ChatGPT ou des sites comme ça. Dans le cas où je peux te présenter Apartus, l'IA fait par le PFL, récemment sorti, Libre Access, ou DeepSeek, fait par le parti chinois, et pourtant qui est en libre access, qu'on peut entraîner avec nos valeurs, et qui répond des résultats factuels et corrects, sans être biaisé.
Alors, je connais pas du coup les deux choses que t'as citées. Mais ça... Pour moi, ça retombe toujours au problème plus un peu la pensée humaniste de tu perds la valeur du travail humain. Et même tu l'entraînes avec les choses que t'as fait à toi, c'est les choses que t'as choisies.
Je reviens un peu sur ton point de genre pourquoi ça provoque de sentiments très forts. Je pense que c'est même parce que les scientifiques ont genre, c'est pas qu'ils ont peur de l'IA, mais que genre ça les perturbe. Genre il y a Jeffrey, je cite son prénom, Jeffrey Hinton, c'est ce qu'il en, genre il est appelé le The Godfather of AI. Il avait il est alarmé par la progression très rapide de l'IA en ce moment.
Mais en fait, moi, ce qui me perturbe, c'est que j'ai pas... Enfin, genre, je pense que je ne connais pas encore suffisamment l'IA pour avoir un avis défini sur si c'est quelque chose de bien ou de pas bien. Mais en même temps, je me dis, on avait exactement, quand on fouille un peu dans l'histoire, on avait exactement les mêmes discours quand Internet est apparu. Oui. On avait exactement les mêmes discours quand l'ordinateur est apparu. À chaque grande nouvelle, enfin à chaque découverte majeure qui s'est passée dans l'histoire, les scientifiques, les connaisseurs du sujet ont été alarmés en disant « ça progresse giga vite ». Du coup, est-ce que c'est pas juste une répétition de l'histoire et qu'en fait, on en fait a big deal parce qu'on vit l'époque, mais qu'au final, bah, ça va juste être comme quand on a créé l'ordinateur, comme quand on a inventé Internet, comme quand on a fait tout ça.
Je sais pas, mais moi j'ai l'impression que ça c'est un peu plus différent. Surtout que, par exemple, avec ChatGPT, au début c'était genre OpenAI, l'entreprise qui a créé ChatGPT, c'était une entreprise à but non lucratif. Et très récemment, je pense vers 2019, le CEO il a décidé de partir vers un but lucratif. Ça a causé beaucoup de polémiques par rapport à ça parce que la mission originale de cette entreprise c'était de donner un accès égal à tout le monde par rapport à l'IA. Et maintenant, genre, quand tu introduis de l'argent dans cet aspect, est-ce que ça reste genre un accès égal à tout le monde? Et est-ce qu'on s'éloigne pas de la vraie mission, de la mission originale?
Je sais pas. Ok,
ça pose
problème. Je suis assez perplexe et voilà. Je pense qu'on n'a pas le temps de débattre en profondeur dans le sujet, mais c'est pas genre, je veux dire, l'accès à la santé c'est payant et pourtant.
Je vois ce que tu veux dire, mais
non, mais c'est juste un sujet
très complexe.
Oui, c'est ça, c'est un sujet complexe. En fait, je vois parfaitement les arguments qui font que l'IA peut être mauvaise, mais dans ma tête, avec ce que je connais aujourd'hui, et je dis pas que mon avis évoluera pas, mais dans ma tête, avec ce que je connais aujourd'hui, pour moi, l'IA, ça reste un outil, et je pense que, genre, si on éduque les gens à bien l'utiliser, et si, bah, c'est un peu ta métaphore du marteau et du clou, si on apprend qu'est-ce qu'un clou. Et où est-ce qu'on tape et comment on tape, c'est juste un nouvel outil qui apparaît. Après, j'en sais rien. J'essaie de mettre en... J'en sais rien. Je m'en renseigne encore. Mais voilà. Mais je crois qu'on va arriver gentiment à la fin du débat. Mais merci d'avoir donné vos avis.
Merci à toi pour avoir lancé un tel débat.
Petite dérive hors des médias pour l'IA, mais...
C'est de flow of... discuter au micro.
Ouais. Oui. Je pense que, du coup, est-ce qu'on continue à parler de quelque chose vite fait, il 57
Je crois qu'on a une musique à écouter.
Oui, on a Vienna de Billy Joel. On arrive à la fin de ce Café Kawa et je vous remercie pour ces chroniques et ce débat très très riche. Et maintenant, il est 8h et je vais vous laisser avec Myriam pour le Flash Info.
Fréquence banane, les infos.
Actualité internationale. L'Europe s'alarme des tractations américano-russes sur l'Ukraine. En effet, la visite de l'émissaire américain Steve Witkoff à Moscou ce mardi 2 décembre n'a pas fait évoluer la solution et l'Europe contemple ces discussions américano-russes sans y être invitée. Pourtant, la députée ukrainienne Lyudmila Buimister insiste sur l'importance de l'UE dans les réflexions menées. Sport national. Du côté du hockey sur glace, la soirée du 3 décembre a été infructueuse pour les équipes romandes. En effet, Genève, Fribourg et Bienne ont été battues à plate couture. Du côté du football, Yverdon déclenche la surprise par leur victoire contre Lausanne 2-1 après prolongation sur la pelouse du stade municipal à domicile, ce qui lui permet d'accéder au quart de finale de cette Coupe suisse. Initiative et votation. Ce dimanche, les Vaudoises et Vaudois ont massivement refusé les deux initiatives populaires proposées à l'échelle fédérale, l'une concernant l'obligation du service citoyen aux jeunes femmes, l'autre concernant la création d'un impôt sur les successions et donations pour financer des mesures climatiques. À Genève, l'UDC souhaite lancer une initiative pour interdire aux étrangères et étrangers de voter au niveau communal, ce qui est pour le moment légal après 8 ans de vie sur le territoire suisse. Retour sur le sport avec Noé Ponti, nageur tessinois qui démarre très bien sa chasse aux médailles lors de ses championnats d'Europe en petit bassin, avec une médaille d'or aux 50 mètres papillon hier. Et il ne s'arrêtera pas là, puisqu'il sera aux lignes de départ du 100 mètres 4 nage aujourd'hui, du 100 mètres papillon demain et du 200 mètres papillon dimanche. Enfin, un fait divers, un
trentenaire a grièvement été blessé dans l'incendie d'une maison ce mercredi après-midi à Guin, dans le canton de Fribourg.
Fréquence banane, la météo.
Aujourd'hui, la journée sera globalement nuageuse à Lausanne, avec un ciel chargé mais sans grand éclaircissement. Les températures resteront froides, autour de 3 à 5 degrés Celsius en matinée, et elles ne monteront pas beaucoup l'après-midi. On peut s'attendre à un temps doux mais humide, quelques averses sont possibles, surtout en début de journée, et le ciel restera très couvert. Pensez à sourire et à quand même sortir, pour ne pas devenir des zombies.